Certains la comparent à une exploratrice des mystères de la vie. Biologiste spécialiste du développement, Nicole Ledoirin est une des plus grandes scientifiques françaises. Elle se distingue dès les années 60 avec un premier coup d'éclat en créant des chimères de caille et de poulet. Idée apparemment saugrenue qui a pourtant été adoptée par les laboratoires du monde entier afin d'éclairer les questions autour du développement des embryons. Les travaux de Nicole Ledoirin sur les cellules souches ont aussi permis de comprendre comment une cellule unique devient un organisme complexe, des portes ouvertes pour la médecine régénérative. Et certains l'espèrent pour l'immortalité. Nicole Ledoirin signe son dictionnaire amoureux de la vie chez Plon, un ouvrage dans lequel justement elle voyage dans tous les domaines des sciences de la biologie. Elle est mon invitée aujourd'hui pour aborder les grandes questions liées à la génétique, à l'évolution des espèces et au fonctionnement du système immunitaire. Nicole Ledoirin va répondre à toutes vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Ce sont les coccinelles qui sont aujourd'hui à la une de la science dans le rôle d'exterminatrice écolo de pucerons. Hein.
Oui, puisque la mairie de Paris a distribué samedi des milliers de larves de coccinelles à tous les riverains désireux de jardiner sans pesticides. On discute donc de l'intérêt de ces auxiliaires de jardin avec l'entomologiste Romain Nattier.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Benoît Tonson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Nicole Ledoirin.
Bonjour.
Vous signez chez Plon votre dictionnaire amoureux de la vie. Alors ça, c'est un sacré pari quand même. Hein.
C'est vrai.
Aborder tous les mécanismes de la vie dans un seul ouvrage.
C'est-à-dire que c'est un sujet immense parce que la vie, c'est la vie biologique, c'est-à-dire ce qui nous distingue et ce qui distingue les êtres vivants du monde qui nous entoure, du monde minéral, qui n'est pas vivant.
Le monde inerte, oui.
Et puis, il y a aussi la vie telle que les humains la vivent, c'est-à-dire qui génère la pensée, qui génère toutes sortes d'activités humaines extrêmement variées et qui vont de la construction de choses extraordinaires comme des avions, des ponts, etc. Et puis la philosophie, et puis les arts, etc. Donc la vie, c'est un sujet un peu intimidant.
Ah oui, c'est vrai, c'est vertigineux, comme vous l'écrivez
d'ailleurs,
vous-même.
Hein, d'ailleurs, ouais. D'ailleurs au début, on m'a demandé d'écrire un dictionnaire amoureux de la biologie.
Ouais.
Ça me paraissait tout à fait accessible. Pour la vie, j'ai été obligée de réfléchir.
Et donc, il y a beaucoup d'entrées, hein, évidemment, dans ce dictionnaire. On va en explorer quelques-unes avec vous dans un instant. Et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Nicole Ledoirin, à tout de suite.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et ce sont des coccinelles qui sont aujourd'hui à la une de la science. Elles sont dans les grandes villes pour limiter l'usage des pesticides.
Ouais, il y a des pucerons sur les rosiers, pas trop la menthe, mais le céleri qui monte en graines et truffé de pucerons. Donc je sais qu'une larve de coccinelle mange jusqu'à 100 pucerons par jour. C'est plutôt intéressant, quoi. C'est mieux que de passer le doigt sur la fleur et de l'esquinter. Et...
Donc vous repartez avec deux petites fioles?
C'est ça, deux petites fioles de coccinelle Adalia pinctata. Ouais.
Voilà, c'était Jeanne-Marie Marco pour France Bleu, qui était donc ce samedi dans le parc de Bercy, où la mairie de Paris organisait donc une distribution de près de 40 000 larves de coccinelle à tous ceux qui souhaitent végétaliser la capitale, des mangeurs de pucerons à déposer dans son jardin ou sur son balcon pour tenter évidemment de limiter l'usage des pesticides par les particuliers. Romain Nattier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entomologiste et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et puis à vos côtés, comme tous les lundis, Hervé Kempf, notre confrère de Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Hervé, 40 000 larves de coccinelles distribuées donc ce week-end, ça semble beaucoup. Qui a bénéficié de ces dons?
Eh bien, les quelques dizaines de personnes qui sont en un permis de végétaliser, c'est-à-dire qui peuvent, s'ils respectent un certain nombre de règles écologiques, planter des plantes à travers la grande ville de Paris. Alors, ce sont, comme le disait le témoin interrogé par notre consoeur, des Atalia bipunctata, c'est-à-dire des coccinelles à deux points, bêtes à bon Dieu, on les aime beaucoup. Et ça fait partie des rares insectes qu'on aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils mangent, ils sont des adis. Aphidiphages, des mangeurs de pucerons et les pucerons qui envahissent les rosiers et d'autres plantations. C'est important parce que les jardiniers amateurs sont parmi les plus grands consommateurs de pesticides.
Ouais.
Ils en mettent généralement trop et de mauvaise manière. Et ces pesticides vont commencer à être interdits à partir de 2019. Alors, il faut commencer à prendre l'habitude. Paris inaugure cette méthode cette année, c'est une très bonne chose. Elle suit la ville de Caen, qui fait ça depuis 15 ans et qui a des élevages même de coccinelles.
Alors Romain Nattier, parlez-nous un petit peu d'Adalia bipunctata, puisque c'est l'espèce de coccinelle distribuée. Quelles sont ses particularités ?
Alors en fait, il s'agit d'une espèce qui est indigène, donc qui vit en France. C'est une espèce européenne et même française, donc qui n'est pas une espèce envahissante, déjà, premier point. C'est une espèce qui n'est pas très grande par rapport aux autres espèces de coccinelles, qui fait 5-6 mm de long. Alors, on la trouve sous différentes formes de couleurs. Elle peut être rouge à point noir, noir à point rouge, elle peut être rouge avec deux points noirs, deux points rouges, tout dépend. Donc là, une grande variabilité morphologique. Et, chose intéressante, effectivement, les larves et les adultes se nourrissent de pucerons en grande quantité.
Est-ce que 40 000 coccinelles peuvent à elles seules permettre de réduire les pesticides et de ne pas utiliser de pesticides ?
Alors, elles peuvent permettre de s'affranchir d'une certaine manière de pesticides, même si les pesticides ne visent pas uniquement à éliminer les pucerons, en l'occurrence. Néanmoins, effectivement, elles vont être un auxiliaire précieux dans la lutte biologique que souhaite mettre en place la ville de Paris.
Ça veut dire qu'il faut faire venir d'autres insectes dans son jardin ?
Voilà, donc l'idéal, effectivement, c'est d'utiliser une grande panoplie en fait, d'insectes auxiliaires, donc qui aident l'agriculteur ou le jardinier amateur également à se débarrasser des ravageurs, bien sûr. Ça peut aller donc des coccinelles, en l'occurrence. On peut utiliser également des cirfes, qui sont des petites mouches qui ressemblent à des abeilles, dont les larves se nourrissent de coccinelles et les adultes se nourrissent de nectar, donc qui favorisent également la pollinisation. On peut également favoriser l'implantation dans parcs et jardins et dans les terrasses de chrysope. On appelle ça également des demoiselles aux yeux d'or. C'est comme une mouche, mais assez longue, toute verte, avec des yeux dorés, dont là, les larves également sont très friandes de pucerons.
Et tous ces insectes ensemble, ça va, ça s'entend bien et
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne vivent pas exactement au même endroit. Donc, il n'y a pas de compétition complète entre elles. Et donc, si l'habitat est assez varié, ça se passe bien.
Alors, si je fais tout pour faire venir ces insectes et que mon voisin utilise des pesticides, est-ce que ça ne peut pas poser problème ?
Alors, ça peut poser problème parce que, déjà, ça a bientôt été interdit, voilà, d'une part. Non, ça peut poser problème parce qu'effectivement, votre voisin, avec ses pesticides, d'une part, va faire fuir les pucerons dans votre jardin. Donc, bon, voilà, mais ça donnera à manger à vos insectes. Et, in fine, ça peut aussi détruire les insectes auxiliaires, donc les insectes qu'on utilise en lutte biologique à cause des pesticides.
Donc, ça peut tuer nos coccinelles, complètement ?
Voilà, exactement, en forte quantité, ça peut, oui.
Au final, relâcher comme ça 40 000 coccinelles d'un coup dans la ville de Paris, ça fait beaucoup de prédateurs. Est-ce que ça ne peut pas avoir un effet néfaste ?
Alors, ça ne peut pas forcément avoir un effet néfaste, puisque ces coccinelles-là, en l'occurrence, sont des coccinelles de nos régions, d'une part, et d'autre part, elles se nourrissent principalement de pucerons. Donc, elles ne vont pas aller s'attaquer aux autres insectes. Et ce qui est intéressant dans les relations prédateurs-proie, c'est qu'en règle générale, il y a une certaine régulation naturelle entre les deux. Et cette année, il y aura peut-être beaucoup de coccinelles par rapport aux pucerons. Mais l'année prochaine, ça sera peut-être différent.
Hervé, est-ce que ces méthodes de lutte par les insectes amis, les coccinelles, les cirfes, les chrysopes, est-ce que ça pourrait s'appliquer en agriculture et pas seulement dans les jardins urbains ?
Alors, ça s'applique en agriculture. Alors, le problème qui se pose en agriculture, c'est que généralement, il faut que ce soit dans des environnements fermés, comme dans des serres, puisque il n'y a aucune raison que les cirfes, les chrysopes et les coccinelles adultes qui sont ailés restent dans le champ et n'aillent pas chez le voisin. Donc, ça s'applique déjà en agriculture. Le problème qu'il y a en agriculture et dans les milieux naturels, c'est que généralement, le taux de génération, notamment des coccinelles, est inférieur à celui des pucerons. En gros, les pucerons se développent plus vite que les coccinelles.
Ça vit combien de temps une coccinelle ?
Ça vit plusieurs mois. Donc là, en l'occurrence, cette espèce-là vit à peu près de juin-juillet jusqu'au printemps suivant.
Ça veut dire que l'année prochaine, il va falloir redistribuer des larves ? Elles ne vont pas se reproduire pour l'année prochaine ?
Alors voilà, c'est là le problème qui se pose. C'est qu'en l'occurrence, elles vont se développer, se reproduire, mais pas forcément sur les sites où elles auront besoin. Donc ça doit s'accompagner également de mesures qui permettent de favoriser leur habitat pendant l'hiver. Et l'année prochaine, j'imagine qu'une nouvelle opération aura lieu afin de déposer les larves de coccinelles spécifiquement là où il y a des pucerons.
Alors pour ceux qui n'habitent pas forcément en ville, comment trouver ces auxiliaires de jardin qui n'ont pas profité de ces dons de la ville de Paris ?
Alors on peut en acheter, tout comme la ville de Paris fait. Il y a plusieurs déjà grandes enseignes d'animalerie et de jardinerie qui en proposent.
Ah,
et on peut également les acheter par correspondance. Il y a plusieurs entreprises françaises qui en produisent, qui en élèvent et qui les vendent par correspondance, notamment à l'état d'œuf, qui sont le stade qui est le plus solide et propice à la vente.
Il y a des erreurs à ne pas faire quand on achète ?
Par exemple, l'erreur à ne pas faire, bien sûr, c'est d'acheter une espèce exotique, envahissante, comme la coccinelle asiatique, qui pose un certain nombre de problèmes au fonctionnement écologique naturel.
Et ça pose des problèmes aussi aux coccinelles françaises ?
Voilà, donc en l'occurrence, elles prennent la place dans les milieux naturels de ces espèces-là, parce qu'elles sont plus grosses, plus voraces et...
Pourquoi vous intéressez autant à la coccinelle, Romain ?
Alors, c'est un insecte magnifique. Déjà, d'une part, parce qu'elle a une grande variété de couleurs. Mmh. On a des jaunes, des noirs, des rouges, donc on peut étudier ça de manière spécifique. Et en plus, c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour le public, pour intéresser le public à des problématiques écologiques et environnementales, comme le fait la mairie de Paris, ou dans le cadre de mes études, à des problématiques plus d'évolution, de systématique, de collection. Donc c'est un insecte, on dirait, très sympa, finalement, et qui accroche bien le public.
Mais du point de vue de l'évolution, alors ça a quel intérêt exactement ?
Alors justement, au niveau de l'évolution, on peut étudier l'évolution des couleurs au sein des coccinelles, ou bien, là, par exemple, c'est ce qui nous intéresse, des relations entre les proies et les prédateurs.
Hervé Kempf, racontez-nous l'histoire de l'expression « la bêta bon Dieu » quand même, je sais que vous la connaissez cette histoire.
Ah bah écoutez, il paraît qu'au Xe siècle, un meurtrier présupposé devait être décapité. Et puis une coccinelle est venue se poser sur le cou de la personne au moment où le bourreau allait abattre sa hache. Ouais. Le bourreau a arrêté, la coccinelle a enlevé la coccinelle est revenue se poser. Le bourreau à nouveau l'a enlevé, la coccinelle est revenue se poser. On a arrêté la décapitation quelques jours, le temps de voir ce qui se passait, de se remettre à niveau, si j'ose dire. Et puis dans l'intervalle, on s'est rendu compte que la personne que l'on voulait tuer n'était pas le coupable et que c'était un autre meurtrier.
Ah oui.
Et depuis, on dit la coccinelle, la bête à bon Dieu.
Voilà, gracié donc par le roi de l'époque, hein, au Xe siècle. Le nom qui s'appelait comment ?
Robert II.
Robert II.
Et pas Jupiter.
Voilà, Romain Nattier, vous confirmez cette histoire ?
Oui, tout à fait.
Bon, tout a été dit sur la coccinelle,
Axel. Je pense qu'on a fait un tour de la carapace.
Voilà, pour ceux qui souhaitent s'intéresser, il ne faut pas forcément un permis, hein, justement, de végétaliser pour pouvoir mettre ces larves.
En tant que particulier, on peut en acheter et les mettre dans nos jardins. Mais le permis-là était nécessaire pour que la mairie de Paris les donne gratuitement.
Ouais. Hervé Kempf, vous nous faites un article pour demain dans reporter.net.
Absolument, ça le mérite à la une.
Sur la coccinelle, on rappelle son nom puisqu'elle a deux tâches, hein,
voilà,
seulement.
Voilà, la coccinelle a deux points, Adalia bipunctata.
Merci beaucoup Romain Nattier, merci Hervé et Axel. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, c'est une pluie de comètes qui aurait pu modifier l'atmosphère terrestre à ses débuts. La sonde Rosetta, qui malgré son crash forcé sur la comète Chury en septembre dernier, continue de faire parler d'elle, apporte justement ces résultats importants. Les données collectées par ces instruments continuent d'être analysées. Et les chercheurs de Nancy publient donc aujourd'hui une analyse fine de la composition de la queue de la comète. Ils affirment que 22% du xénon contenu dans notre atmosphère serait d'origine de comètes comme Chury, une part importante qui serait la signature du bombardement cométaire survenu il y a 3,3 milliards d'années. Et puis en filigrane, la même question qui reste posée, la vie était-elle déjà présente sur une de ces comètes ? On y revient d'ailleurs demain à la une de la science. Un champignon qui poussait au temps des dinosaures, c'est une découverte inouïe que viennent de réaliser des chercheurs chinois. La silhouette d'un petit champignon de quelques centimètres de haut ressemblant à un rosé des prés est parfaitement conservé dans une roche datée à 115 millions d'années. Il s'agit donc du plus vieux spécimen fossilisé. Les chercheurs expliquent que ce champignon est probablement tombé dans une rivière dû à un glissement de terrain. Rivière qui aurait entraîné le champignon vers un lagon d'eau très salée. Et c'est en coulant rapidement au fond du lagon qu'il aurait été piégé dans les sédiments. C'est ce concours de circonstances incroyables qui a permis à ce champignon de traverser les âges jusqu'à nous. Et puis les corbeaux se souviennent des personnes malhonnêtes à qui ils ont affaire. Pour cette étude, plusieurs corbeaux ont été entraînés en captivité à faire des simples échanges d'objets contre de la nourriture, ça évidemment avec des humains. À plusieurs reprises, les humains de l'expérience ont volontairement berné les corbeaux en ne donnant pas la bonne récompense ou en donnant une nourriture de piètre qualité. Eh bien, non seulement les corbeaux ont appris à ne plus traiter avec des tricheurs, mais se sont également souvenus de leur visage pendant plus d'un mois en évitant tout nouvel échange. Un indice pour les chercheurs d'une forme avancée de coopération sélective entre corbeaux dans la nature. Et la grande question de la vie au centre de notre dossier avec Nicole Ledoirin, mon invité, dans un instant.
Who do you want?
Brown Gunnar Johnson à l'instant.
La tête carrée. Sur France Inter.
Nicole Le Douarin, vous êtes donc notre invitée cet après-midi à l'occasion de la publication de votre dictionnaire amoureux de la vie, cette collection qui existe chez Plon. Vous êtes chercheuse en biologie du développement et en embryologie. Vous avez reçu en 86 la médaille d'or du CNRS et vous êtes professeure honoraire au Collège de France et secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, avec les auditeurs qui nous rejoignent déjà avec beaucoup de questions. Mais sur l'embryon, tiens, il y a une grosse passion embryon apparemment chez nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus. Je vais vous donner ces questions dans un instant. D'abord, expliquez-moi comment vous êtes attaqué, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, à ce thème de la vie. Par quel bout on s'y prend alors quand on doit écrire un dictionnaire sur le sujet ?
Eh bien, écoutez, je n'ai pas commencé par la première entrée, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai commencé par m'exprimer sur des sujets qui m'intéressaient à ce moment-là. Puis les choses se sont élaborées d'une manière progressive. Je n'ai pas fait un grand plan au départ. Mm-hmm. Je savais finalement très bien ce que je voulais faire comprendre aux gens.
Ouais.
À savoir que comment on conçoit ce qu'est la vie. Comment on pense qu'elle a commencé et comment elle se distingue du reste du monde. Et puis aussi, je voulais expliquer ce qu'est la recherche. Comment la recherche biologique peut devenir une véritable passion. Mmh. Et comment les grandes découvertes ont été faites par des gens, justement, qui avaient du talent, certes, mais qui avaient surtout un grand désir d'avancer et de comprendre. Et j'ai pris la décision de parler d'un certain nombre de ces personnes.
C'est vrai, il y a des portraits, plusieurs. Ouais.
Certaines que je connaissais personnellement, et puis d'autres que je connaissais par les livres qui ont été écrits sur elles. Je me suis intéressée particulièrement aux femmes, ce qui n'est pas tellement surprenant, parce que les femmes ont eu énormément de mal à rentrer dans le monde de la recherche à un niveau qui leur permettait d'être indépendantes, c'est-à-dire d'être créatives, de s'exprimer vraiment, et puis aussi d'avoir les moyens de travailler.
Alors justement, on va donner un exemple tout de suite avec un sujet qui vous passionne, hein, puisque vous avez vraiment une passion pour l'ADN, hein, vous l'expliquez à plusieurs reprises. On va justement écouter un son qui avait été réalisé pour France Inter à l'occasion de la découverte de la structure en double hélice. Ça s'est passé en 1953, le son était bien postérieur.
Élémentaire, mon cher Watson, ça n'est pas du Sherlock Holmes, c'est à lui-même que s'adresse ce jeune biologiste américain James D. Watson. Ce matin de février 1953 au laboratoire Cavendish de Cambridge, il vient de découvrir comment s'ordonnance l'ADN, support des gènes de l'hérédité, une structure en double hélice, la spirale de la réplication génétique. Watson s'empresse d'alerter son binôme anglais, le physicien Francis Crick. Watson a 24 ans, Crick en a 36. Nous avions dit Crick une certaine arrogance juvénile et supportions mal les raisonnements vaseux. Le 23 avril 1953, la revue Nature publie Watson et Crick en relevant l'intérêt biologique considérable de leur découverte. C'est à temps perdu qu'ils bricolent les fils de fer et les boules de laiton qui représentent la structure de l'ADN. Les boules sont les quatre bases, adénine, guanine, thymine et cytosine. C'est l'alphabet du vivant qui permettra d'écrire le langage de l'hérédité.
Voilà, c'était sur Inter en 2004, Olivier de Ringsin, donc qui rappelait hein, cet épisode majeur, évidemment, de la science, en 1953, avec la découverte de la structure en double hélice, Crick-Watson, et une grande oubliée, Nicole Le Douarin.
Rosalind Franklin.
C'est incroyable, cette histoire, quand même. Hein.
Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme qui était véritablement géniale. Elle avait pour origine une famille juive londonienne, aisée, dans laquelle les femmes étaient instruites, allaient même à l'université, mais ne travaillaient pas, n'avaient jamais de profession. Et elle-même, alors, elle a montré qu'elle allait faire différemment. Elle a montré qu'elle était extrêmement douée dès les premières années de sa scolarité. Et puis, elle avait surtout une passion extraordinaire d'apprendre. Ouais. Elle était extrêmement douée pour les mathématiques, la physique, tout ce qui est scientifique.
Quel rôle elle a joué alors autour de l'ADN exactement ?
Eh bien, elle était extrêmement compétente dans le domaine de la diffraction des rayons X. C'est-à-dire qu'on savait que l'hérédité était portée par les chromosomes, et que dans les chromosomes, il y avait deux constituants principaux, les protéines et puis les acides nucléiques. Certains pensaient que le patrimoine héréditaire était inscrit dans les protéines parce qu'elles présentent une grande variabilité. D'autres pensaient que c'était dans les acides nucléiques. Et elle-même faisait partie de ces gens qui pensaient que c'était dans les acides nucléiques. Elle travaillait dans un laboratoire au Cavendish Institute à Londres. Et elle avait purifié, elle avait de l'ADN purifié, qui était particulièrement une belle préparation. Et cette préparation, elle l'a étudiée aux rayons X et elle a fait cette diffraction. Et elle en est arrivée à montrer que c'était certainement une molécule qui était en hélice et qui avait des brins, plusieurs brins. On a pensé au départ qu'il y avait trois brins, même plus au départ. Et puis, elle a finalement fini par montrer qu'il n'y en avait que deux.
Et alors, la forme en double hélice, on lui doit directement ou pas ?
On la lui doit, c'est-à-dire que elle n'était pas la seule à travailler là-dessus, que souvent les grandes découvertes se font par la coalescence de plusieurs, observations, de plusieurs de recherches qui attaquent le problème de différents angles.
Mais dans un temps concomitant, justement.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était très prégnant, ce problème-là, chez les biologistes. Et en particulier dans ce groupe-là, et puis dans un autre groupe aux États-Unis. Et celui de Watson et Crick, ils étaient à Oxford, je crois, et ils étaient donc... ils ne faisaient pas de diffraction rayons X. Ils étudiaient la molécule d'une autre manière. Et c'est la coalescence des deux approches qui a permis de découvrir ce que c'est.
Sauf que son nom est passé complètement à la trappe. C'est inouï. Il y a la publication de Nature, donc en 53, c'est ça?
Oui. Il s'est trouvé que elle n'était pas bien considérée parce que c'était la seule femme qui travaillait à ce niveau-là dans le laboratoire et que j'explique dans le livre comment elle a été mise en quelque sorte comme une assistante d'un autre personnage, Wilkins. Ouais. Et puis elle se rendait bien compte qu'elle était meilleure que Wilkins, en tout cas dans le domaine de la diffraction rayons X.
Et son nom n'a même pas été cité pour la remise du
Nobel.
À ce moment-là,
non. Elle était déjà morte. Ouais. Elle est morte à un âge très jeune, et en particulier probablement parce qu'elle avait été irradiée pendant. Oui. Elle est morte d'un cancer.
Et on ne remet pas le Nobel à des personnes décédées. Hein. Non. D'où ce Nobel attribué donc à Crick
et
Watson.
De toute façon, dans l'article qui a été tout à fait l'article qui a été publié dans Nature en 1953, elle n'est pas dans la liste des auteurs.
C'est quand même assez incroyable. Hein.
Oui.
Au vu de sa contribution quand même sur la découverte de la double
hélice. Mais ce n'est que vers l'année 2000 que ça a été vraiment
Il a fallu attendre beaucoup de temps. Ouais. Et vous lui rendez hommage, donc, entre autres, dans ce dictionnaire de la vie. Alors, au tout début, on a une frise de la vie. Ça, c'est intéressant, justement, pour voir comment un peu les choses ont commencé. Ça nous fait remonter à 3,8 milliards d'années. Alors, il est noté sur la frise, les origines de la vie, point d'interrogation. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment tout a commencé.
Non, non, on ne sait pas comment on est passé de molécule indépendante à cette molécule tout à fait particulière qu'est l'acide désoxyribonucléique.
Ouais.
Et alors, pourquoi est-ce qu'elle est particulière et pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la molécule de la vie ou que la découverte en question, c'est découverte du secret de la vie? C'est parce qu'elle a une caractéristique qui est d'être capable de s'auto-renouveler. C'est-à-dire qu'elle est formée de deux brins qui sont enroulés l'un sur l'autre en une double hélice et que les deux hélices sont réunies par des bases qui correspondent à une des quatre bases différentes qui constituent
le langage,
l'ADN. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était quatre lettres. Et alors, il y a une complémentarité, c'est-à-dire que l'adénine d'un côté se lie à la thymine de l'autre hélice, et la cytosine à la guanine, etc. Vous voyez ? Alors,
je vois bien,
ça permet, lorsque la molécule est en cours de duplication et que les deux branches de l'hélice se séparent, eh bien, au contact de chacune d'elles, se reconstitue l'hélice complémentaire. Tout à fait identique à celle qui était, lui était complémentaire au départ. De sorte qu'on a deux molécules d'ADN qui sont absolument identiques.
Mais le tout départ justement de ce mécanisme.
Alors le tout départ, c'est il faut imaginer que cette molécule un jour a été construite dans ce qu'on appelle la soupe primitive. Mm-hmm. Alors ce qu'on imagine.
Le scénario le plus plausible pour l'instant.
Oui, alors. Et pour l'instant, parce que on fait des découvertes qui sont, alimentent un petit de sans d'une manière continue ce problème. Et en particulier, on s'est aperçu qu'il existait dans le monde intersidéral des molécules dont on n'imaginait pas qu'elles puissent exister, mais qui sont des molécules assez complexes déjà, qui contiennent du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, comme les acides aminés, et de l'azote comme les acides aminés. Et alors, il existe, on imagine que par des combinaisons chimiques qui se sont faites au hasard, il s'est formé ces molécules-là. Et ces molécules, donc, elles ont cette propriété de s'auto-reproduire. Mais on pense que ça n'est pas l'ADN qui a été fait en premier. C'est l'acide ribonucléique, ouais, dans lequel, au lieu du sucre, désoxyribose, qui fait partie du nucléotide qui est la base de la molécule d'ADN, on a le ribose. Et alors, l'ARN, on a découvert il n'y a pas tellement longtemps qu'en plus d'avoir cette propriété d'acide nucléique, est aussi un matériel qui est capable d'avoir une activité enzymatique. Il faut absolument des enzymes pour que les combinaisons chimiques puissent s'accomplir.
Mais ça, c'est une des définitions que vous donnez à la vie, au fond. C'est un processus chimique.
Ah, tout à fait.
Pour essayer de le définir.
Tout à fait chimique. Hein. Alors, l'ARN est capable de s'auto-reproduire parce que non seulement il est constitué comme il l'est, mais il est capable d'avoir cette activité enzymatique qui lui permet d'accomplir cette duplication. Tandis que l'ADN n'a pas cette propriété. Mais pourquoi est-ce que c'est l'ADN qui est devenu la base de la vie? Parce que l'ADN est beaucoup plus robuste. Et ça serait l'ARN qui aurait joué le rôle d'enzyme pour que l'ADN puisse se former.
Les mécanismes de la vie, donc, dans ce vaste océan biologique qu'on explore avec vous, Nicole Ledouarin, cet après-midi, avec des questions pour vous, dans le domaine de l'embryologie en particulier, franceinter.fr pour nous retrouver.
Une femme dans chaque port, la même, me suivra-t-elle encore? Une femme quand je m'endors, la mienne, au lit jusqu'à l'aurore. Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi. Une femme qui tient la houle, la barre, et moi qui perds la boule. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. Une femme pour moi tout seul, la mienne, tous mes amis la veulent. Une femme qui rit encore, qui m'aime, qui n'a pas jamais tort. Une femme toujours d'accord, toujours, et parfois pas d'accord. Une femme qui grandit encore, et moi qui rétrécis. vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. Moins bien que demain. Moins bien que demain.
Une femme, Albin de la Simone, à l'instant sur France Inter. Nicole Doirin, notre invitée pour le dictionnaire amoureux de la vie qui arrive aux éditions Plon. Vous parlez évidemment de cette zone un petit peu compliquée entre l'inerte et le vivant, parce que là aussi, on n'a pas encore tout à fait les réponses à ce passage de l'inerte à la vie. Vous donnez quand même l'exemple des virus. Ça, c'est intéressant, parce qu'au fond, le virus, on le représente comme une cellule vivante. Or, ça n'est pas aussi simple que ça.
C'est-à-dire que les virus sont constitués par de l'ADN ou de l'ARN, c'est-à-dire un acide nucléique. Donc, ils sont capables de s'auto-renouveler. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'auto-renouveler. Mmh. Et puis, ils possèdent aussi des protéines. Or, les protéines sont fabriquées par l'intermédiaire. Il est nécessaire pour que des protéines se forment que les gènes qui sont dans des acides nucléiques, fournissent le modèle de la protéine, en quelque sorte.
Mais pourquoi les virus, on ne pourrait pas les classer d'emblée dans les cellules vivantes?
Le problème, c'est qu'ils ont le programme, c'est-à-dire ils ont l'ADN ou l'ARN, mm-hmm. et puis ils ont le produit final, mais ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour les intermédiaires. Mm. Il leur faut la machinerie d'une cellule vivante, c'est-à-dire qu'ils sont capables, quand même, grâce aux protéines qu'ils ont, de reconnaître des récepteurs sur la surface des cellules qu'ils sont capables d'envahir. Ils s'attachent à ce récepteur et puis ensuite ils sont internalisés par la cellule. Et une fois qu'ils sont dans la cellule, ils vont installer leur ADN dans l'ADN de la cellule et puis l'ADN de la cellule va s'amuser, si j'ose dire, à fabriquer le virus en grande quantité.
Donc c'est leur dépendance? Au fond,
ils dépendent de la cellule et ils tuent la cellule qui les a fabriquées.
Ouais. Nicole Doirin, puisque vous êtes spécialiste entre autres de l'embryologie, Jules nous pose une question toute simple. Quelle est la définition d'un embryon exactement alors?
L'embryon, c'est ce qui se forme à partir de l'œuf fécondé. C'est-à-dire qu'une fois que l'œuf a été fécondé, c'est une seule cellule. Évidemment, l'organisme, c'est beaucoup de cellules. Donc, il faut que cette cellule se multiplie. Alors, elle commence à se multiplier. Et dès qu'elle commence à se multiplier, elle n'est plus un œuf. Elle n'est pas non plus tout un organisme. Mais elle est un organisme en formation, c'est-à-dire qu'elle est un embryon qui évolue en permanence. C'est-à-dire à chaque fois que, chaque minute, il se produit quelque chose qui fait qu'on passe d'un état à un autre état. Donc c'est un organisme en évolution rapide.
Alors Jean demande, justement, l'embryon, à quel moment peut-il être considéré comme une personne? À partir de quand est-ce qu'on entre dans le stade humain?
C'est un problème qui est plus philosophique qu'il n'est biologique. C'est pour ça qu'il a des réponses, il y a plusieurs types de réponses.
Selon quoi? Les convictions? Les croyances?
Oui. Alors, la réponse qui était celle des religions, même de la religion catholique, de la religion juive et de la religion musulmane, c'était qu'on commençait avoir une forme, dans le cadre de l'humain, lorsqu'on commençait à avoir un système nerveux, avoir le cœur qui battait, avoir une espèce de forme humaine avec, avec la tête, l'ébauche de la tête, on pouvait considérer qu'on avait un être humain en préparation, certes, mais déjà un être qu'on pouvait qualifier d'humain. Et puis, ça se situe un certain temps après la fécondation, 40 jours pour les uns, un peu plus pour les autres. Et puis, à partir du moment où la science a montré qu'on avait un être différent et nouveau lorsque le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent et qu'on a un œuf et qu'au lieu d'avoir N chromosomes dans chaque cellule, on a maintenant deux N chromosomes, les chromosomes du spermatozoïde et les chromosomes de l'ovule. À ce moment-là, on a un être nouveau. Donc, ils ont considéré que c'est à ce moment-là que Dieu, en quelque sorte, avait fabriqué un être nouveau, âme devait commencer à être là à ce moment-là.
Et d'où l'interdiction pour...
Ça a eu des conséquences considérables. J'ai beaucoup discuté de ça avec le chancelier de l'Académie pontificale des sciences, parce que c'est un problème tout à fait important en ce qui concerne beaucoup d'applications des sciences à l'homme. Et en particulier, le fait qu'il est interdit par la religion catholique, par exemple, de dériver des cellules souches à partir d'embryons humains. Alors que pour la religion juive, on peut le faire, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas affaire à un être humain.
Nicole Ledouarin, un nom évidemment qui a beaucoup compté, et pour vous, et pour le domaine de l'embryologie, c'est celui d'Étienne Wolff. Il a joué un grand rôle justement dans votre initiation à la recherche dans ce domaine. On va d'abord écouter sa voix. Oui. Il était au micro de Jacques Chancel en 1975, et il nous explique ce qu'il faisait justement avec ces monstres.
Ah, c'était pas tant ça.
Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages, enfin de séries, d'études. Il y a eu Les chemins de la vie, il y a eu ce dont vous parlez tout à l'heure, Les changements de sexe, mais il y a eu également La science des monstres. Et vous avez toujours préconisé, Étienne Wolff, une voie nouvelle dans la recherche sur les monstruosités. Alors pourquoi choisir les monstres et pourquoi en faire ?
C'est une question que l'on m'a souvent posée et quelquefois on me demande d'une manière moins nuancé que ce que vous venez de me dire, à quoi ça sert? Alors, je dis, quelquefois avec mauvaise humeur, à rien. Mais ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai.
ça sert vraiment à quelque chose. Je veux dire que, simplement, que lorsqu'on fait de la recherche désintéressée, il ne faut pas chercher tout de suite les objectifs pratiques. Mais, effectivement, à quoi ça sert? Ça peut s'interpréter de plusieurs manières. On peut interpréter aussi quelle question est-ce que ça peut servir à résoudre? Alors, voilà une première réponse à ce que vous m'avez demandé. Faire des monstruosités chez les animaux, ça sert à comprendre comment elles se produisent chez l'homme.
Alors, Nicole Ledouarin, la science des monstres, déjà, c'est assez impressionnant comme terme. Pourtant, c'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est Étienne Wolff, évidemment, qui a fait ces choses-là. Et vous aussi, ensuite. C'est pour comprendre quoi, les mécanismes de la vie, ou on pourrait l'expliquer comme ça?
Écoutez, quand Étienne Wolff a préparé sa thèse, qu'il a passée en 1936, les monstres humains, enfin les enfants mal formés, étaient considérés comme quelque chose d'incompréhensible et surtout comme une espèce de malédiction qui était portée sur la famille. Alors, on lui avait donné comme sujet de thèse d'essayer de comprendre comment les monstres se formaient. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien étudié en quoi consistaient les monstruosités et il a essayé de les reproduire sur l'embryon de poulet.
Ouais.
Et c'est comme ça, par exemple, qu'il a obtenu des poulets qui, au lieu d'avoir deux yeux dans chaque orbite, avaient seulement un œil. Des cyclopes.
Or, il a créé des cyclopes dans son laboratoire.
Il a créé des cyclopes et les cyclopes, c'est quelque chose qui est rare, heureusement, comme monstruosité, mais qui peut se produire. Et alors, ça a permis de comprendre comment se forment les orbites, comment se forment à partir des ébauches des yeux, non pas un œil, mais deux.
Donc, l'idée, c'est de comprendre le cours normal des choses, au
cours
de la vie.
Oui, alors à l'époque, on n'avait pas tellement de façon de forcer la nature à vous raconter comment elle agit, comment elle se produit, elle se reproduit. Et là, c'était une façon de faire.
Mais ça vous a inspiré, Nicole Ledouarin, parce que vous avez fait des choses dans votre laboratoire, avec des poulets aussi, d'ailleurs.
Oui, j'ai travaillé chez Étienne Wolff et j'ai fait des chimères, oui. Alors ça, c'était...
Caille poulet.
Oui, caille poulet. Mmh. Vous savez pourquoi ?
Ben non, dites-moi.
Parce que il y avait un généticien ici à Paris qui était d'ailleurs juif et qui avait, s'était donné comme tâche, après la guerre, de démontrer que les races pures n'avaient absolument aucun avantage par rapport aux hybrides, que c'était exactement le contraire. Et il avait décidé de démontrer cela sur des animaux qui soient pas trop éloignés de l'homme, pas des crapauds, pas des oiseaux, mais des oiseaux, parce que les oiseaux, justement, c'est assez proche. Et parce que on peut manipuler l'oiseau, l'embryon d'oiseau dans l'œuf. Alors, il a choisi une espèce d'oiseau qui se reproduit très vite et qui est de petite taille, en fait, qui pouvait élever. Et c'était des cailles. Et alors, il avait un gros élevage de cailles à Gif-sur-Yvette, au CNRS, et il ne savait plus que faire de tous ses œufs de cailles. Il ne voulait pas les jeter, c'était quand même épouvantable. Alors,
il a fait votre bonheur, c'est ça ?
Pas mon bonheur à moi toute seule, mais il est allé trouver les laboratoires d'embryologie qui travaillaient sur les œufs de poule, qu'il fallait les acheter, etc. Et il leur a dit, écoutez, je vais vous donner des œufs, les embryons de cailles sont comme les embryons de poulet, vous allez travailler sur la caille. Alors, les gens ont accepté, mais ils ne se sont pas beaucoup... Vous savez, les chercheurs sont comme les autres, quand ils sont habitués à quelque chose, ils ne veulent pas tellement changer. Alors, ils ont travaillé un peu sur la caille, mais pas beaucoup.
Ouais, mais vous, vous et êtes moi, arrivé,
moi, on m'a donné des œufs de caille un jour, et puis j'ai trouvé un truc que les autres n'avaient pas vu. C'est que le noyau des cellules de caille est très particulier. À l'intérieur, il y a une masse d'hétérochromatine. Vous ne savez pas ce que c'est, l'hétérochromatine ?
Non, c'est vrai, je vous l'avoue.
C'est une espèce de chromatine. La chromatine, c'est là que se trouvent les chromosomes, en herbe. C'est le DNA, c'est l'ADN. Et si on regardait une coupe d'embryon de poulet et une coupe d'embryon de caille, on reconnaissait du premier coup d'œil parce que les cellules étaient différentes. Alors, je me suis dit que comme je voulais connaître le développement d'une structure et qu'il fallait que je la suive tout au cours du développement, il fallait que je la remplace chez le poulet par exactement la même chez la caille, au même stade. Mmh. Et dans le poulet, je verrais la structure s'épanouir. Et c'est ce que j'ai fait.
D'où ces chimères, caille, poulet, qui vous ont rendu célèbre dans le monde entier, parce qu'après on a reproduit aussi ce que vous aviez fait.
Ah ben oui, bien sûr. Ouais.
Là
oui.
Aussi, c'est pour comprendre les mécanismes de l'embryogenèse.
Ah ben oui, ouais. Parce que j'ai étudié le développement de certains... type d'une certaine partie du système nerveux qu'on appelle le système nerveux périphérique. Oui. Tous ces ganglions que nous avons dans le corps et qui viennent d'une région tout à fait particulière de l'embryon, très précoce, qui est très transitoire, cette région. Mais enfin, voilà.
On revient vers vous dans un instant, Nicole Le Dorin, pour la suite de notre discussion autour de ce dictionnaire amoureux de la vie. C'est chez Plon.
Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la damita, yo no lo puedo evitar. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí.
a cuento voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a cuento voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a cuento voy para Mayarí.
On sait, par l'introduction de DNA, c'est-à-dire d'acide désoxyribonucléique, que l'on peut changer les caractères d'une souche bactérienne, par exemple, faire que cette souche bactérienne, qui initialement était sensible à certains antibiotiques, ne le soit plus. L'expérience de Benoît est du même genre, mais à une autre échelle, puisqu'elle a été réalisée sur un animal supérieur, le canard.
Dont il aurait réussi à changer les caractères morphologiques par simple injection de ce DNA.
Et oui, en injectant un gène canard, à peine éclos, du DNA provenant d'une autre espèce de canard.
Les résultats obtenus par le professeur Benoît ont soulevé certaines controverses dans le monde scientifique. Quelle est votre opinion à ce sujet?
Vous savez ce que c'est. Quand un phénomène est tellement extraordinaire qu'il bat en brèche un certain nombre d'idées bien établies, il faut un certain délai, beaucoup de vérifications, avant qu'il soit admis indiscutablement dans les milieux scientifiques. Et pour ma part, je crois très sincèrement que cette expérience, grande de conséquences, permettra à l'être humain, comme le disait Jean Rostand, d'avoir une action sur l'évolution de sa propre espèce. Et permettez-moi de vous dire que la biologie risque, plus encore que la science nucléaire, de transformer totalement l'humanité, et cela avant la fin de ce siècle.
Et ça, Nicole Audouin, c'est ce qu'on disait en 1959, la biologie va transformer l'humanité avant la fin de ce siècle. Vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre là ou pas?
C'est-à-dire que c'était faux, l'expérience de Benoît n'avait pas, les modifications qui ont été vues, je ne sais pas si d'où elles venaient, mais en tout cas elles ne venaient pas de l'injection de l'ADN. Mais c'était pas si faux que ça, pour la bonne raison qu'on a appris après, quand on a réussi à isoler l'ADN, etc., et à le manipuler quand le génie génétique est venu à la disposition des chercheurs, on est capable, en effet, de modifier les gènes d'un individu. Oui. Et ça se fait très couramment chez la souris, chez la drosophile, chez toutes sortes d'espèces animales.
Oui. Alors justement, ça pose tout un tas de questions d'éthique autour de la manipulation du vivant,
oui,
aujourd'hui.
Et puis surtout que maintenant, on a trouvé assez récemment une méthode qui est le CRISPR-Cas9, qui a d'ailleurs été mise au point en partie par une Française,
Emmanuel Charpentier.
On a trouvé le moyen, d'une manière extrêmement aisé, de modifier le génome,
ouais,
c'est-à-dire de enlever un gène, le remplacer par un autre,
le modifier,
et puis même on peut faire ça sur une même cellule, à plusieurs endroits à la fois.
Mais est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut tout faire quand on est biologiste, justement ? Ces questions d'éthique, de philosophie sur le vivant, on se les pose au fil des...
C'est très intéressant de faire ça, parce que ça apprend beaucoup de choses
ça,
sur
c'est
la
pour
manière
la recherche fondamentale.
Ouais. Ouais, ouais. Oui, mais... Évidemment, il faut mettre des barrières. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'espèce humaine. Alors, ça, c'est une question de bioéthique qui est extrêmement importante. La bioéthique est quelque chose qui doit accompagner les sciences biologiques.
Ouais. Écoutons tiens un extrait du film Bienvenue à Gattaca qui illustre précisément ces questions posées par la science.
10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui a porté autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois.
30 ans.
Le nom sur le certificat? Anton.
Non, Vincent, Anton. Oui, c'est un joli nom.
Voilà, Nicolas Dorin, si on va au bout des capacités de la science, c'est-à-dire naître avec déjà une sorte d'identité de toute notre vie, là on est dans la fiction évidemment.
Oui, mais il faut absolument réguler l'application des sciences, absolument.
Mais certains rêvent de l'immortalité, alors on aurait pu parler des cellules souches avec vous évidemment, mais il y a ce rêve du transhumanisme dont vous parlez également dans cet ouvrage.
On peut toujours rêver. Hein.
Oui. On en est loin à votre avis ?
De quoi ? De l'immortalité ?
De l'immortalité,
oui. Oui, je pense qu'on en est loin. Je ne suis pas sûre qu'on y arrivera un jour.
C'est vrai.
Les bactéries, qui sont très simples, ont une forme d'immortalité. Elles se coupent en deux et puis leur DNA s'autoreproduit. Mm-hmm. La bactérie fille est identique à la bactérie mère. Et donc, elles sont immortelles en ce sens-là, puisqu'elles se perpétuent.
Qu'est-ce qui pose problème pour l'humain, alors ?
Pour l'humain, eh bien, l'humain est beaucoup plus complexe. À partir du moment où on a eu des vraies cellules, les bactéries, c'est des cellules, mais enfin, où on a eu des cellules plus compliquées avec un noyau et qui contient le DNA et puis le cytoplasme autour qui contient la machinerie, ça a permis la formation d'êtres multicellulaires puis d'être extrêmement complexes comme nous. Mmh. Mais le prix à payer de cette complexification est que les individus qui sont porteurs des cellules de reproductrices. Les cellules reproductrices sont immortelles puisqu'elles se perpétuent d'une génération à l'autre. Mais les porteurs de ces, qui sont hautement complexes, eh bien, le prix à payer est la disparition, le renouvellement. La sénescence.
Ouais. Donc ça fait beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de points d'interrogation encore d'ailleurs autour des mécanismes de la vie. C'est ce que vous abordez justement dans ce dictionnaire amoureux de la vie. Nicole Ledouarin, il vient de paraître aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci.
Cet après-midi dans le dossier de la tête au carré. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Machiavida.
Affaires sensibles dans un instant avec vous. Quel sera le thème de l'émission ?
L'édition 1955 des 24 heures du Mans qui se sont terminées par 82 morts et plus d'une centaine de blessés. Après le récit, nous recevrons Jean-Paul Guittet, il est psychiatre. Il travaille avec les pilotes et les membres des équipes du circuit du Mans en ce moment. Mais il était au Mans lors de la tragédie. Il était petit, hein. il avait 10 ans. Ça l'a marqué, vous voyez, parce qu'il travaille maintenant auprès d'eux.
Il vous en parle dans un instant dans Affaires sensibles après les infos. Merci beaucoup.